Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Paul Uzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine, Chronique pour la paix. Chers auditeurs, depuis plusieurs semaines, la violence règne à la frontière israélienne de Gaza. Plus de 100 morts et plus d'un millier de blessés du côté palestinien. Une pluie de roquettes qui s'abat sur les localités juives qui vivent dans la peur pendant que des milliers d'hectares de champs partent en feu. Quand c'est fini, ça recommence de ce côté-ci du monde. En France, les uns accusent d'Israël d'être responsable sans aucune restriction. Les autres accusent le Hamas d'être à l'origine de ce sanglant épisode sans aucun doute. Le tout étant dit en trois mots. Et puis il y a eu ce long communiqué publié par J-Call qui a tenu à identifier les pistes permettant de ramener le calme dans la région. Tranchant sur toutes les réactions épidermiques, ce communiqué était remarquable. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui David Chemla, secrétaire général de J-Call pour l'Europe. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que J-Call, cela signifie Jewish Call for Reason, et que cette organisation soutient la relance des négociations entre Palestiniens et Israéliens, la solution deux peuples pour deux États. David Chemla, vous êtes là ?
Je suis là, bonjour.
Bonjour David Chemla. Alors une première question. Dans votre communiqué, vous accusez le Hamas et le gouvernement israélien de partager la responsabilité de la dégradation sécuritaire et humanitaire à Gaza. Est-ce que vous sous-entendez par là qu'il y a une collusion objective ? Que reprochez-vous exactement à l'un et à l'autre ?
Il y a peut-être effectivement une collusion objective entre la droite au pouvoir aujourd'hui en Israël et le Hamas dans leur refus tous les deux depuis des mois à essayer de trouver une solution politique à ce conflit. Alors évidemment ils n'ont pas la même responsabilité parce que du côté israélien on le contrôle pratiquement de l'entrée et sortie de cette enclave de Gaza où, rappelons-le, près de 2 millions d'habitants habitent dans un territoire de l'ordre de 400 km², ce qui n'est 40 km sur 10 à peu près. Du côté de la frontière israélienne, c'est effectivement les Israéliens qui ont contrôlé les accès. Du côté égyptien, ce sont les Égyptiens. Et depuis des mois, et voire maintenant des années, il y a un blocus pratiquement total du côté égyptien qui a été levé ces derniers jours et partiel du côté israélien. Et du côté maritime, il y a aussi des contrôles très stricts, les pêcheurs palestiniens ne pouvant pas aller au-delà de 9000, je crois, maritimes, au-delà de laquelle ils ne peuvent pas sortir. Donc la situation explosive sociale, tout le monde la connaissait. Les services de sécurité israéliens, que ce soit de Tzahal, que ce soit du service sécuritaire, du Shin Bet et autres informations, ont été remontés depuis longtemps aux dirigeants politiques pour leur dire ça va exploser, il faut alléger les blocus, il faut trouver des solutions à cette situation sociale et économique. Près de 40% de la population est au chômage pour les jeunes. Il y a des coupures d'électricité dans la journée alors qu'on est en plein été avec la chaleur qui nécessite d'avoir des réfrigérateurs qui n'ont plus d'électricité, il y a des problèmes d'eau, d'alimentation. Tout cela, ce n'est pas la famine, hein, il ne faut pas aussi noircir à l'excès cette situation, mais c'est une situation explosive. Donc ça, c'est pour les conditions objectives. Et le Hamas avait envoyé des ballons d'essai, je dirais, depuis des mois vers les Israéliens pour essayer d'arriver à une, ce qu'on appelle une houdna en arabe, c'est-à-dire un cessez-le-feu prolongé. Ce n'est pas un accord de paix, ce n'est pas la reconnaissance d'Israël, mais c'est, disons, une modalité de régler la situation provisoirement. Il n'y a pas eu d'accord sur cette proposition. Probablement, la proposition palestinienne n'était pas suffisamment garante pour les dirigeants israéliens. Et résultat, ça allait exploser. Donc, ça, c'est du côté israélien. Quant au Hamas, il est évident qu'ils ont favorisé, si ce n'est organisé, ces manifestations. Il y avait un reportage très intéressant cette semaine, il y a trois jours, sur Canal+, fait par une équipe française, je crois, qui montrait la situation à Gaza. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que d'abord, une grande partie de la population ne suivait pas le Hamas, ça c'est, on le sait, mais ils sont un peu pris en étau à l'intérieur de cette situation, ils sont n'ont pas la possibilité de manifester leur opposition. Et puis par ailleurs, vu la situation économique que j'écrivais précédemment, il y a eu des initiatives pacifistes, on a entendu des intellectuels gazaouis le dire, qui voulaient un petit peu, dans la lignée de Gandhi, préconiser des manifestations pacifistes. Ensuite, c'est pas...
Pourquoi il n'y a pas de révolte contre le Hamas, David Chemla? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une opposition contre le Hamas?
Il y a eu des oppositions, rappelons que le Hamas est arrivé au pouvoir par un coup d'État, hein, ne l'oublions pas. Ils ont assassiné de nombreux leaders du Fatah qui étaient présents sur place. Dès qu'il y a des oppositions, les opposants sont arrêtés et disparaissent parfois complètement physiquement aussi. Donc voilà, il y a un contrôle interne très strict par la police politique du Hamas de la situation interne. Ça, c'est connu. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'initiative, semble-t-il, de ces manifestations, de ces marches du retour symboliques vers la frontière israélienne, était organisée au départ par des initiatives, disons, de la population civile, de certains mouvements, mais ce n'était pas lié au Hamas. Le Hamas l'a pris ça en chemin, semble-t-il, d'après ce reportage, en tout cas, c'est ce que ça montrait, et l'a organisé, et visiblement a essayé de la militariser, parce que quand il y a 40 000 personnes qui vont vers les soldats israéliens, il est certain que ceux-ci sont trouvés dans une situation insupportable et qu'ils sont obligés d'utiliser leurs armes pour empêcher les Palestiniens d'entrer du côté israélien, et ça, quand on en arrive là, c'est déjà trop tard, je dirais. Et visiblement, d'après les images que l'on a vues, il y a eu des essais du côté palestinien de briser quand ils peuvent cette barrière en mettant des cocktails Molotov, en essayant de forcer la frontière, etc. Et certains que l'armée israélienne ne pouvait pas laisser des incursions se faire sur son territoire, elle devait le défendre. Malheureusement...
Oui, je comprends, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, c'est que, compte tenu de la nature de chacun, enfin la nature, ce n'est pas le bon mot, mais compte tenu du manque de politique, la mauvaise volonté de chacun, on est arrivé à cette situation que c'était inévitable. Il fallait une solution politique, quelque chose de négocié pour pouvoir sortir de ce piège.
Ça fait longtemps que tout le monde le sait, et je vais vous dire même plus, les Israéliens le savent, indépendamment des services de sécurité dont je parlais tout à l'heure, dont le rôle de l'armée, c'est de, disons, l'armée ne peut pas porter de solution au conflit. Elle peut justement permettre aux politiques de leur donner le temps nécessaire et les conditions sécuritaires nécessaires pour qu'il y ait une solution politique. C'est un conflit où il n'y a pas de solution militaire, on ne pourra jamais gagner face à une population qui veut son indépendance, qui veut son État. Ça s'est vu partout sur tous les continents, face à un mouvement national et le mouvement palestinien, que ce soit le Hamas ou le Fatah, parce que le Hamas est quoi qu'un mouvement islamiste, c'est aussi une revendication nationaliste palestinienne, et même il fait partie d'un mouvement beaucoup plus large islamiste, rattaché aux frères musulmans, comme tout le monde le sait. Mais face au mouvement nationaliste, il ne peut pas y avoir de solution militaire. Et les Israéliens le savent, la population civile, il y a eu un sondage intéressant cette semaine en Israël, qui montre que 41% de la population israélienne sont pour un allègement des conditions à la frontière pour permettre de réduire un peu cette tension. 41%, c'est certes pas la majorité, mais c'est le chiffre le plus important. 28% préconisent la réoccupation de Gaza. Aucun parti politique à l'extrême, peut-être, de certains députés de Beit HaYehoudi n'envisage, parce que ça serait revenir à une situation où on ne pourrait pas contrôler 2 millions de personnes, comme ça a été
David
le cas pendant des années.
J'ai remarqué qu'à la fin de votre communiqué, vous lancez un appel, JICO lance un appel au président Macron. Vous demandez à la France de lancer une nouvelle initiative de paix avec les pays européens amis d'Israël. Et vous sous-entendez que le plan du président des États-Unis est voué à l'échec. Pourquoi le plan français et européen marcherait mieux que celui de Donald Trump?
Non. Ce n'est pas un plan de paix. Nous sommes contre tout type de conférences. Ça fait long feu, toutes ces conférences. Plus personne n'y croit, plus personne ne sera mobilisé par une conférence internationale. C'est voué à l'échec dès le départ. Par contre, il faut, si vous voulez, réfléchir un petit peu à comment aider à stabiliser cette région. Et je parle de Gaza, je ne parle pas de la Cisjordanie dans ce que nous avons écrit. À savoir qu'il faut... Alors, on va avoir effectivement la proposition de paix américaine, on en parle depuis des mois, mais pour l'instant, en tout cas, rien n'a été mis sur la table. Et, disons, la plupart des analystes n'accordent pas beaucoup de crédit à cette initiative américaine, nous verrons. Mais dans le cas où celle-ci devait échouer... il faut avoir déjà une initiative prête à être mise sur le terrain. Et cette initiative, la France pourrait avec d'autres pays, et je pense, nous pensons à l'Allemagne notamment, et d'autres pays européens et des pays arabes sunnites qui seraient intéressés aussi à trouver une solution pour Gaza, déjà proposer, mettre en place un plan dont tout le monde connaît le contenu. Ce n'est pas nouveau, tous les plans ont été faits, leur coût a été chiffré, à savoir comment réhabiliter cette région de Gaza, créer un port, ouvrir les frontières et arrêter le blocus avec tous les contrôles sécuritaires nécessaires pour le passage des produits entre Israël et Gaza. On en connaît le contenu. Retour de l'autorité palestinienne qui a été éjectée de Gaza par le Hamas pour qu'elle puisse assumer le contrôle politique de la région. Et cela, disons que la France pourrait, avec d'autres, être à l'initiative d'un tel plan. Je pense que c'est indispensable déjà de préparer l'après-crise. Parce que comme toujours au Proche-Orient, comme vous l'avez dit en introduction, dès que c'est fini, ça recommence. Et on voudrait ne recommence dans quelques mois,
David,
ou dans un an, ou dans deux.
Je vais vous interrompre parce que l'émission se termine. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je souhaite un Shabbat Shalom à tous nos fidèles auditeurs. On se retrouve pour un autre rendez-vous dans 15 jours. C'était Paul Ouzi Meyerson à l'antenne pour Chronique de la Paix.